Bienvenue sur PFM 99.9 si vous nous rejoignez.
PFM 99.9.
Une trentaine d'émissions par semaine, beaucoup de musique en tout genre, de la littérature et des infos.
99.9 Radio PFM.
La Côte du Miracle.
Non mais c'est une blague. C'est ça que vous me proposez? Donc ça y est, on y est quoi. C'est la Cour des Miracles.
Mesdames et messieurs, c'est la Cour des Miracles. Je plaisante pas.
Oui, le son étant un phénomène vibratoire issu d'une excitation volubile, on imagine aisément la diffusion de ces dites vibrations.
Tu vas tout de même aller la voir de notre part. Et tu lui diras que la Cour des Miracles ne l'oublie pas.
Moi, c'est mon émission préférée.
La Cour des Miracles, Radio PFM.
La Cour des Miracles.
Yes, bienvenue dans la Cour des Miracles sur Radio PFM 99.9. La Cour des Miracles, et c'est votre dernière agora. Du dub, du hip-hop, de l'électro, un peu tout ça, mais pas aujourd'hui. Yes, on est reparti pendant une heure dans la Cour des Miracles. C'est Radio PFM, c'est votre radio locale arageoise sur...
Pour l'instant.
Pour l'instant, ouais, voilà. Je suis pas tout seul dans les studios, je suis avec Tonio. Ça va, Tonio?
Salut, yes. La France entière, comment ça va?
La France. Salut, Johan, ça va?
Yes, salut
Tonio. Yes, petite voix, Johan, donc je monte un petit peu ton micro parce que je pense que tu auras des choses à dire durant cette... cette émission. Tiens, j'ai aussi Charlie qui est là. Salut Charlie, ça va?
Bonjour.
Bonjour. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire pendant
la pièce?
Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette heure? On va parler élections européennes. Ah, t'as un petit problème de micro, Johan. Alors regarde peut-être sur la table au milieu. Regarde. Voilà, je
sais
que
ça y est, tout va bien.
Ouais, voilà,
nickel.
Ça va mieux.
C'est parfait.
Ok, super. Donc voilà, donc spécial élection européenne parce que dimanche dernier s'est passé le suffrage direct de l'élection européenne. L'extrême droite qui vient de réaliser un score historique qui s'inscrit dans un contexte mondial menaçant, évidemment. Elle semble en mesure de réaliser l'union des droites et se retrouve désormais aux portes du pouvoir. Donc voilà, c'est le bordel.
Ouais, c'est beau bordel, comme tu dis.
Pas encore, il y a les JO après. Ça
alors c'est vrai qu'il y a les JO et puis il y a l'Euro de football aussi. Hein.
Bien sûr, surtout aborder cette question d'un point de vue au niveau du sport par la suite. Ouais.
Alors,
ce regard.
Il y a surtout une dissolution du coup qui a été déclarée par le président du coup juste après les résultats de ces élections européennes.
Ouais, bah tiens, on va revenir dessus. On va écouter du son aussi. Tiens, toi Charlie, toi tu nous as amené du son. Toi tu nous as fait un mix spécial gaucho style, c'est ça?
C'est ça. Un peu du cliché. On n'est pas sur des trucs très originaux. Enfin, mais de toute façon, maintenant l'extrême droite qui fait des scores historiques, c'est devenu un cliché en France. Donc je me suis dit, on va pas chercher des trucs un peu obscurs. On va juste mettre des valeurs sûres et puis voilà.
Allez, pour les résultats de cette élection européenne, on revient dessus un petit peu. Bah, le premier, le grand gagnant. C'est évidemment le Rassemblement National, c'est le FN.
Le charismatique Jordan.
Avec Jordan, ouais. Avec 32%, hein, kiff. Moi je fais des
kiff-kiff pourcentage. 31,5 apparemment.
Ouais, il y a Valérie Ayé aussi qui est à 15%.
Ce qui est assez incroyable d'ailleurs aussi.
Ouais.
Parce que, bon,
c'est hallucinant.
C'est 15% derrière Valérie Ayé qui représente notre cher président. Troisième, et pas des moindres hein, quand même, c'est 14%, c'est Raphaël Glucksmann.
Et le PS, toujours vivant, bien sûr.
Ouais, il représente le PS. Moi, je ne savais pas qui représentait le PS.
Oui, Glucksmann représente.
Pourquoi c'est son nom qui te dérange? T'as quelque chose?
Non, pas forcément, mais en fait, je ne savais pas qu'il était affilié PS.
Je crois qu'aux présidentielles, effectivement, je crois qu'il avait sa propre liste.
D'accord. Et puis bah, c'était suivi aussi par Manon Aubry, LFI 10% à peu près.
10%, ouais.
Un truc comme ça.
En fait, Glucksmann, c'est Place Publique, il me semble, son parti rattaché au Parti Socialiste. Il me semble que c'est ça.
François-Xavier Bellamy. qui a fait 7%, qui représente LR, les Républicains, le
c'est
RPF.
Quand même, je trouve, pour,
enfin, 93% n'ont pas voté pour lui. Quoi.
Voilà. Ouais. Le RPR.
Mais pour moi, je suis étonné qu'ils arrivent quand même à trouver des gens pour voter pour eux.
Ils font encore moins, je crois,
qu'en, on en reparlera
en, qu'en 2019, le RPR, enfin le UMP ou les Républicains. Ils ont tellement de noms différents.
C'est peut-être que des chiffres de 1402, j'ai pas les autres.
Allez, il y a aussi les écologies. En écologie, il y a Marie Toussaint qui a fait 5%. Donc il y a quand même des voix au niveau européen. Trop peu, on pourra peut-être revenir.
D'un point de vue objectif, c'est totalement sociologique. C'est pas du tout parce que je l'aime ou je l'aime pas.
Ouais.
C'est vrai que par rapport à tout ce qui est défis climatiques, etc., le fait, je l'ai déjà vu parler, c'est quelqu'un qui est quand même assez charismatique, qui connaissait ses dossiers, et quelqu'un de sensible à l'écologie aurait pu voter pour elle, je pense. Mais et je suis étonné qu'elle n'ait pas beaucoup plus de voix, en fait, que les écolos n'aient pas eu plus de voix.
Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de partis qui militent aussi pour l'écologie.
Après. C'est vrai, il y en avait vraiment beaucoup, ouais.
Donc bon, c'était pas évident de se positionner.
Puis t'as de l'écologie de gauche, l'écologie de droite. T'avais
écologie centriste, qui était.
C'est un peu le mot qu'on met. Un peu fourre-tout en fait. Maintenant.
Et puis on finit aussi avec ceux qui ont aussi des sièges au niveau européen, c'est Marion Maréchal Le Pen.
Incroyable.
Mais maintenant on dit plus Le Pen, alors qu'en fait c'est une PME familiale à la base. Hein. Ils font tous partie de la même famille.
Bardella est marié avec une cousine.
C'est des Lannister, c'est un peu le même concept.
Voilà, pour ceux qui regardent Game of Thrones. Quoi.
Leur petit-fils risque d'avoir les mains palmées. Hein.
donc bah, ça c'est pour la liste. Ça en gros, ça c'est pour la liste de ceux qui ont des sièges. Au niveau, niveau européen. Tiens, je voulais revenir aussi sur quelques petits chiffres. C'est l'abstention en Outre-mer. 82%. 82% d'abstention en Outre-mer.
48,5% au niveau national et donc 82% en Outre-mer. Ouais, c'est assez édifiant. Ça montre beaucoup de choses. En ce moment, il se passe beaucoup de choses dans les Outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie, évidemment. Et du coup.
Puis ça reste aussi.
Charlie.
Pardon, excuse-moi.
Moi, je trouve que ça s'entend quand même. L'Europe. Est-ce que tu te sens déjà français? Est-ce que tu te sens européen? C'est deux questions quand même qui sont assez détachées de leur mode de vie quotidien, je pense. Je pense que la politique, moi, se fait à l'échelle locale et du coup, pour eux, ça doit leur sembler très très virtuel ce qui se passe sur le territoire métropolitain.
C'est très lointain, c'est vrai.
Ouais, et puis sans compter le fait que c'est des. Enfin, la plupart des dom-toms, ils sont vraiment laissés pour compte, quoi. Enfin, c'est clairement la Guyane, c'est terrible, Enfin.
Le problème de l'eau en Guadeloupe, c'est toujours pareil depuis tellement longtemps. C'est incroyable.
Donc, et on retrouve cette question à l'échelle internationale de la colonisation, du reste de la colonisation globale. Hein, je dis pas que qu'on est en plein conflit colonial ou quoi.
Mais
là, c'est une question qui se pose dans tous les conflits, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Moyen-Orient,
ou en Nouvelle-Calédonie.
Et tiens, justement, pour revenir plus au niveau européen, évidemment, premier en France, c'est le RN, hein, Rassemblement National, extrême droite, Front National. En Italie, avec Fratelli d'Italia, c'est Giorgia Meloni, qui est arrivée en tête avec plus de 31%. Il y a aussi l'Autriche qui est arrivée première avec les conservateurs, 27% à peu près.
Première victoire pour un parti d'extrême droite en Autriche.
Exactement.
Le plus haut score d'un parti
d'extrême droite. Il y a la Hongrie, évidemment, avec le parti du premier ministre nationaliste hongrois, Viktor Orban.
Ouais.
Là, ce n'est pas forcément une surprise.
J'ai vu que ça avait été. C'est légèrement compensé par le fait qu'apparemment, il y a un dissident du parti d'Orban qui a présenté sa propre liste et qui a fait presque 30%, et du coup, Orban serait pas vraiment. Perdrait un petit peu de poids politique, apparemment, même si, encore une fois, cette personne qui est partie de son parti a certainement des idées assez proches. On comprend pas bien pourquoi il a fait autant de voix, c'est une grosse surprise. J'ai lu ça sur plusieurs articles.
Et puis il y a aussi l'extrême droite qui est arrivée, pas première, mais qui a créé la surprise en Allemagne, en deuxième position. Moi je trouve ça assez foufou.
L'ex-Allemagne de l'Est a toujours été extrême droite. Quand tu vois les cartes, clairement, la chute du mur de Berlin, il y a toujours des disparités entre l'Est et l'Ouest. Et clairement, à l'Est, malheureusement, ils ont encore une grande partie de la population qui vote extrême droite en Allemagne.
Qui vote extrême droite aussi.
Après, juste parce que là, on dit que extrême droite, des nouvelles que certains peuvent accueillir avec sourire, c'est les pays nordiques qui, eux, en fait, ont vu l'extrême droite faire marche arrière. Alors qu'ils étaient mis comment ils gagnaient des voix. On pense notamment à la Suède, où ils avaient quand même un militant qui brûlait des Corans avec du jambon dedans devant les mosquées. On en est là. Et lui était d'extrême droite, je précise. Et donc ça, au moins ça recule. Ce qui fait qu'au niveau du Parlement européen, il me semble que tout n'est pas extrême droite. Voilà.
Donc en France, Jordan Bardella, qui représente le FN, le RN, je dis toujours FN parce que c'est toujours la même famille, ils n'ont pas vraiment changé les statuts.
Non, c'est toujours un parti créé par un nazi.
Alors justement,
c'est pas une blague. Un vrai SS quoi, un gars qui torturait des gens, ainsi que Jean-Marie Le Pen, les plus chers d'Algériens, comme l'appelle un humoriste de France Inter qui a dû partir.
Mais justement, le FN, qu'est-ce que c'est?
La cour des miracles.
Marginal il y a 40 ans, le Front National a progressé par étapes jusqu'à remettre en cause le bipartisme gauche-droite. Il naît en 1972, rassemblant plusieurs mouvements nationalistes d'extrême droite, dont les néo-fascistes d'ordre nouveau. Présidé par Jean-Marie Le Pen, il axe sa campagne sur l'autorité, le rejet des élites et de l'immigration. Divisé, il attendra 10 ans pour percer. Mais allié avec la droite en 83, il entre à la mairie de Dreux, puis envoie 10 députés au Parlement européen. Dans les années 90, le FN s'implante. Après les milieux aisés, il se tourne vers les classes populaires, inquiètes de la mondialisation. Quatrième à la présidence de 1995, il progresse à chaque élection locale, mais le leader multiplie les provocations racistes, qualifiant les chambres à gaz de points de détail de l'histoire. En 98, c'est la scission. L'ex numéro 2, Bruno Maigret, quitte le mouvement et le FN recule. Le Pen fait tout de même trembler la classe politique en 2002 en se qualifiant au second tour de la présidentielle, mais s'effondre en 2007. Sa fille Marine lui succède en 2011 avec les mêmes priorités, sortie de l'euro, identité nationale et lutte contre l'immigration avec un nouvel ennemi, le fondamentalisme islamiste. Mais elle ne parle plus de race et se distingue des positions antisémites de son père jusqu'à l'exclure du parti en 2015. Depuis 2012, les victoires s'enchaînent. Bien placé à la présidentielle, le FN ravit 11 villes, arrive devant l'UMP et le PS aux européennes, puis enregistre des scores inédits aux élections locales. En 2017, le FN se qualifie pour le deuxième tour de la présidentielle. Malgré sa défaite face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen recueille 10,6 millions de voix, soit 34% des suffrages, un record. 2018, le FN se mue en Rassemblement national et vise l'élection présidentielle de 2022. Concentré sur les questions de pouvoir d'achat, Marine Le Pen continue de lisser son image. Elle se qualifie pour le second tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron, recueillant 23,15% des suffrages.
Alors voilà, et Emmanuel Macron évidemment qui perd cette majorité lors de l'élection européenne de dimanche dernier. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Emmanuel Macron a demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est quoi les gars en fait? En gros, est-ce que quelqu'un pourrait, pourrait me le dire un petit peu là?
C'est-à-dire que les députés donc élus à l'Assemblée nationale, les 577 députés sont virés. Enfin, c'est pas la bonne formule, mais je veux dire par là que le président de la République dans la 5e République française a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que voilà, par une simple déclaration comme celle qu'il a faite hier soir suite du coup aux élections européennes, il peut choisir d'obliger en fait les Français d'obliger les députés à se représenter pour une période électorale qui dure un mois normalement, mais là ça va être du coup 20 jours, donc il y a aussi du calcul politique évidemment derrière tout ça.
Il va avoir un vote le 30 juin et le second vote qui sera le 7 juillet. Voilà.
Exactement, donc c'est en deux tours et donc il peut y avoir des triangulaires, des quadrangulaires. Enfin, les législatifs, c'est vraiment... On va revoter pour notre député, donc c'est vraiment de là va ressortir une certaine majorité qui va donner certainement lieu à des alliances possibles, puisque la majorité absolue tout est relancé vu les résultats d'hier aux européennes, même si ça a nuancé encore une fois par le taux d'abstention qui a été quand même de quasiment 50% hein, hier. Mm-hmm. Ouais. Donc voilà, il y a une réserve de voix conséquente pour beaucoup de partis, à part l'extrême droite, puisque, enfin, de réputation, les personnes d'extrême droite vont voter sans s'abstenir la plupart du temps, alors qu'il y a beaucoup d'abstention dans les autres, plutôt dans les autres partis que dans ce parti-là.
Notamment la gauche, d'ailleurs.
Exactement, notamment la gauche. Donc là, en fait, ce qu'il est très probable de voir, c'est normalement, enfin, d'après les jeux politiques, une certaine union de la gauche qui devrait remonter, quoi, la NUPES qui devrait se reformer ou en tout cas se consolider. Pour être contre à la fois Le Pen et Macron, du coup il y aurait trois blocs politiques, un petit peu comme en 2022 au présidentiel, en tout cas les mais trois plus grosses oppositions, on va dire.
Le Rassemblement National peut se retrouver
le Rassemblement National. En fait,
à l'exécutif, tout simplement, bah, au niveau Premier ministre.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que le parti gagnant de ça va se retrouver, Macron sera obligé de nommer le gagnant de son parti, en tout cas celui qui arrive premier, Premier ministre. Et donc c'est pour ça qu'il y a... Il y a des chances que ça soit le RN, il y a des chances que ça soit un macroniste encore, il y a des chances que ça soit la gauche, tout est possible. Quoi. Mais du coup, Macron a décidé de relancer le jeu politique.
Charlie, assez d'esprit sarcastique peut se révéler être un point positif, parce qu'en fait, ça intervient avant les prochaines élections présidentielles.
Oui.
Et du coup, parce qu'on dit souvent l'extrême droite, enfin le RN en l'occurrence, qu'on va continuer à appeler le FN, parce qu'en réalité, c'est encore le même parti.
Oui.
Le FN, on n'a jamais essayé. Si, un Francis qui se retrouve
en 40. Si, en 40, ils étaient au pouvoir.
Ouais, voilà.
J'en ai marre. Non, mais franchement, j'en ai marre d'entendre qu'ils ont jamais été.
Il y a quand même des nuances à faire.
Il y a que le PCF qui a jamais été au pouvoir en France.
Alors, soit c'est vrai, mais je veux dire, il y a quand même des nuances à faire au niveau des gens qui sont élus, qui sont plus tout à fait les mêmes gens qu'à l'époque.
Ouais, voilà.
Ils ne sont pas intervenus dans les mêmes structures.
Bah, Jean-Marie est toujours en vie. Mais...
Il est toujours en vie, mais on n'intervient plus dans le parti. Mais je veux dire, je suis d'accord avec toi, fondamentalement.
Excuse-moi, non, c'est juste que à force d'entendre ça,
Non, mais je sais, en fait, tu vois, il y a beaucoup d'électeurs du RN qui sont aussi aliénés par rapport au discours populaire. Pour moi, logiquement, ouais. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, ils disent bah non, parce que là c'est plus pareil. C'est vrai que c'est plus tout à fait la même chose, on peut pas caricaturer non plus, à mon sens.
Non, bien sûr, mais bon.
Même si on vote sensiblement pour des raisons qui sont connexes.
Mais je profite de rebondir, excuse-moi, sur ce que tu viens de dire, pour quand même dire que Bardella, par exemple, il y a quelques semaines, il a été vu sur une photo où avec plusieurs représentants de partis d'extrême droite européens, et notamment l'un des représentants roumains, j'ai oublié le nom du parti et le nom de la personne, mais c'est aisément vérifiable sur n'importe quel réseau social, il s'affiche avec cette personne qui dit clairement. Il incite à l'extermination des Roms. Donc, je veux dire, voilà, on a quand même une personne qui s'appelle Bardella qui check ce genre de.
On a vu une divergence d'opinion qui peut être assez majeure. C'est-à-dire qu'un petit vieux dans sa campagne qui est modérément conservateur, machin, il dit ouais, je vais voter, machin. Puis un jeune qui ne se sent pas représenté par les politiques, machin, etc. Finalement, ils vont se retrouver associés à des nazis, véritablement. Mm-hmm. Et je pense que les nazis aussi, quand il y aura des gens plus modérés dans leur mouvement, ils vont vouloir à un moment donné saboter le navire pour dire non, c'est nous qui prenons les commandes. Mutinerie, en tout cas, en l'occurrence.
C'est tout le problème.
Du coup, en fait, c'est pas un vrai mouvement genre qui a une vraie unicité. Donc, moi, c'est pour ça que s'il y a un frontiste qui se retrouve Premier ministre demain, je pense qu'en fait, ça portera pas des. Ça portera pas un projet qui sera vraiment frontiste, je pense.
1962, il y a déjà eu Charles de Gaulle qui a dissous l'Assemblée après une motion de censure pour renverser le Premier ministre Georges Pompidou. 1968, Charles de Gaulle encore qui fait appel une seconde fois à l'article 12 de la Constitution après la crise de mai 68, hein, une manière de répondre au mécontentement exprimé dans la rue par le plébiscite des urnes. 1981, il y a François Mitterrand qui dissout le Parlement afin de s'appuyer sur la majorité à sa main alors que l'Assemblée est alors majoritairement à droite. Le calcul est gagnant à ce moment-là. En 88, Mitterrand qui le refait encore, il vient d'être élu, il décide de convoquer des élections anticipées pour mettre fin à la cohabitation entamée en 86. Et il y a aussi en 97 Jacques Chirac qui dissout l'Assemblée, mais la coalition de gauche déjoue le pronostic et l'emporte avec la nomination de Lionel Jospin à Matignon.
Alors qu'ils étaient désunis en plus.
Est-ce que c'est pas une bonne chose la dissolution de l'Assemblée, ou est-ce que justement ça montre un peu la faiblesse de notre système démocratique, Antoine?
Eh ben, en fait, moi, c'est Tonio, mais c'est cool. On aura la réponse que dans un mois et demi, en fait.
C'était juste pour avoir ton opinion. Après, c'est pas,
clairement, après, moi, c'est juste mon maigre point de vue là-dessus. On retirera pas de l'idée que le gouvernement depuis 7 ans a tout fait pour nous faire croire comprendre qu'il n'y avait qu'un seul adversaire sur l'échiquier politique, c'était l'extrême droite. Tout est mis en avant pour qu'ils votent pour eux. Voilà le résultat. Et clairement, ça continue. Enfin, juste avant, on a quand même eu un débat entre Bardella et notre Premier ministre,
Gabriel Attal.
Ouais. Et le représentant de la droite, M. Bellamy, avait dit, c'est un scandale. Quoi. Il a dit, Glucksmann aurait dû être invité également. Donc, quand même la droite dit que la gauche devrait être invitée. Ouais, voilà. Donc on est quand même sur un
pluralisme.
La ficelle est vraiment grosse. Après, on peut vite crier au complot et c'est vraiment pas mon intention dans ma réflexion. Mais clairement, moi, on me retirera pas de l'idée quand même que c'est un échiquier politique bien voulu, bien désiré en tout cas par le gouvernement. Voilà. Mais
Charlie,
complètement. Mais en fait, on se retrouve dans un scénario assez à l'américaine où en fait la glissade depuis 20 ans, la glissade des idées vers la droite, elle fait que maintenant les modérés, en gros, c'est les Obama français, c'est en gros genre la gauche.
Libéraux.
Ouais, la gauche, c'est juste des libéraux. Et le choix, sinon, c'est les conservateurs un peu extrême droite.
Ouais,
c'est comme voilà. Et donc, en fait, on va se retrouver avec des Trump-Biden. Biden est sensiblement de droite ou de centre-droite.
Il y avait un épisode dans une série animée qui consiste à choisir entre
un poire lavement et un sandwich au caca, bien sûr.
Exactement. Je voulais pas le dire, mais je te remercie, Charlie.
Johan, vas-y. Ouais.
Référence à la satire États-Unis, ouais. Magnifique. Je voulais juste dire que là, apparemment, par rapport au contexte des différentes possibilités pour les législatives. Donc, la contre-mesure à en fait cette percée de l'extrême droite inquiétante, c'est mon opinion, pardon, mais je veux dire, et va se retrouver du coup face à Macron qui, avec ses 15% avec Valérie Rayet, va se retrouver au milieu de l'union de la gauche si elle arrive à se faire et du coup l'extrême droite. Donc, en fait, c'est eux qui ont la majorité, donc même pas absolue à l'Assemblée sur les 577. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Mais je voulais juste dire que, par exemple, la gauche plurielle de Lionel Jospin en 97 était dans les sondages à peu près entre 35 et 40%. J'ai vu ça tout à l'heure.
Ouais.
Et finalement, ils font 55%. Et ils avaient à peu près le même temps. Enfin, je crois que c'était un mois, peut-être une semaine ou deux de plus pour se préparer. Bon, là, c'est 20 jours, c'est très peu pour organiser une. Mais bon, il y a la NUPES qui est formée aussi d'une certaine union de la gauche. Donc peut-être qu'ils pourraient réussir à s'entendre pour contrer l'extrême droite.
Ouais, vas-y Charlie, ouais.
Ouais, mais j'avais vu une vidéo qui était super cool, qui expliquait pourquoi le RN, qui est pourtant a priori le deuxième parti de France, se prend systématiquement des énormes branlées aux législatives. Et en fait, c'est parce qu'ils ne forment pas leur cadre et ils prennent des gens un peu comme ça en mode « Tu veux te présenter sur une liste ? Alors on y va. »
Malheureusement.
Et c'était soutenu par des extraits télé où tu voyais que les gens sur les sujets locaux.
Ouais.
C'était
C'était très drôle.
Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est de moins en moins valable ça, dans le sens où la guerre de l'image est assez gagnée par les représentants du RN, dans le sens où ils n'avaient que 10 députés à l'époque où tu parles. Maintenant, ils en ont 88 suite aux élections de 2022.
Ce qui est assez inouï. Les députés, tu as des mecs qui ont fait du ferme parce qu'ils ont tiré sur des personnes de couleur dans la rue. Tu as un mec qui avait une librairie négationniste, totalement pro-nazis, enfin, ces gars-là sont payés par vos impôts, chers auditeurs.
C'est ça.
Ils ont tiré sur les personnes de couleur parce que couleur ne leur allait pas. Ils étaient trop allés.
Il faut savoir que ce député, dont je n'ai pas le nom, et c'est tant mieux, j'ai pas envie d'aller en prison, mais ce monsieur, il est quand même surnommé Hitler par ses collègues du FN, quand même. Pour dire à quel point il renverse des tables en réunion et tout. Bref, c'est un peu le niveau. Juste, est-ce que j'ai une seconde pour parler de la temporalité, de l'intelligence de la temporalité de ce choix du président ? On peut l'aborder après ?
Non, bon, on peut l'aborder un petit peu après. Justement, moi, je voulais revenir. J'avais fait, il y a déjà un petit moment, j'avais fait un petit montage en fait sur l'ascense sociale, en fait, sur ce qu'on appelle le racisme anti-blanc. Et je vous laisse écouter ça parce que c'est un fantasme et c'est super intéressant. On se retrouve juste après.
Yes. Lutter contre l'explosion du racisme anti-blanc et du racisme anti-français.
Je pense qu'il est un racisme dont on ne parle pas et qui est une grande souffrance pour beaucoup de nos compatriotes qui dont la peau est blanche.
Le racisme anti-blanc n'existe pas pour les sciences sociales. Ça n'a pas de sens. Mais en revanche, c'est très présent dans le discours public. On en parle beaucoup. Il y a donc un écart entre ce que racontent les disciplines scientifiques et ce dont on parle dans le débat public. Mais bien sûr, il peut y avoir des insultes, il peut y avoir des agressions. Est-ce qu'on a besoin d'appeler ça du racisme, quand bien même on me dirait sale blanc? Les sciences sociales, de ce point de vue, sont très attentives à dire si on commence à reprendre à son compte le discours de l'extrême droite, qui nous dit que au fond, tous les racismes, ça se vaut, eh bien, on est en train de nier la réalité de l'expérience d'une partie importante de nos concitoyens et de nos concitoyennes, et dire que, au fond, traiter de sale blanc ou traiter de sale noir, c'est la même chose, c'est faire comme si, quand on dit sale blanc, ça résonnait avec toute une histoire, avec toute une expérience sociale ordinaire et avec tous les discours politiques. Je n'entends pas de discours politique anti-blanc. Je ne vois pas de discrimination à l'embauche ou au logement pour les blancs. Je ne vois pas de contrôle aux faciès pour les blancs. Donc, les expériences sociales ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Dans les années 80, qui parlait de racisme anti-blanc? Jean-Marie Le Pen, ou bien des proches du Front National?
Politique française, meeting du Front National hier à Paris, monsieur Jean-Marie Le Pen a annoncé la création d'une ligue contre le racisme anti-français.
Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2005? C'est qu'on a eu, par exemple, le journal Le Monde qui a consacré un article au racisme anti-blanc à l'occasion d'un affrontement qui avait mal tourné. Et on a eu un manifeste contre ce que les auteurs sont allés jusqu'à appeler une ratonnade anti-blanc, c'est-à-dire reprendre un vocabulaire colonial pour l'inverser. Donc, il y a ce contexte qui a pris de l'importance dans les années 2010 avec non seulement des personnalités politiques comme Jean-François Copé qui parle de racisme anti-blanc, mais aussi des associations antiracistes où en particulier une, la LICRA, va jouer un rôle important pour dire après tout, on ne veut pas savoir la couleur des gens quand on se bat contre le racisme. Tout cela, c'est la même chose. Ce qui rend possible pour la justice, donc, de commencer à considérer qu'il y aurait une circonstance aggravante lorsque on dit sale blanc, eh bien, c'est tout un contexte social.
PFM, sans pub.
Être minoritaire, c'est pas seulement une question statistique. C'est pas combien il y en a. C'est des rapports de pouvoir. Même si je suis dans un quartier où je suis le seul blanc, ça ne veut pas dire que je vis en dehors de la société. Or, je vis dans une société où, si je regarde par exemple la liste des présidents de la République, le visage des ministres, eh bien, je n'ai pas l'impression que les Blancs soient aujourd'hui une minorité, non seulement en termes statistiques, mais aussi en termes politiques. Qu'il soit parfois compliqué d'être minoritaire dans un quartier, bien sûr, mais est-ce que c'est ça le véritable problème ou est-ce que c'est le déclassement social que peut représenter le fait d'être mélangé aux plus pauvres des plus pauvres? Aujourd'hui, en France, l'expérience minoritaire, eh bien, c'est une réalité. Il y a des gens qui risquent plus que d'autres face à l'emploi, face au logement, face à la police.
Toujours à l'écoute de Radio PFM 99.9, c'est la Cour des Miracles, édition spéciale élections européennes, voilà, et avec des chiffres effarants, et c'est la première fois que ça arrive, hein. c'est un peu historique quand même. Bon, alors on en parlait déjà en off tout à l'heure, je sais que Charlie aussi me disait, ouais mais c'était prévu, on allait le voir, on allait le savoir, il y a déjà eu des chiffres qui étaient déjà tombés avant, donc voilà. Mais là, on est quand même sur un fait historique. Hein. C'est la première fois que le RN arrive premier à une élection à suffrage direct. Charlie.
Bah, comme tu disais tout à l'heure, moi, ce que je trouve le plus inquiétant, en vrai, c'est à l'échelle européenne, si l'extrême droite commence, qui est constamment eurosceptique, commence à avoir la majorité partout. En fait, c'est juste la fin de l'Europe, quoi. Bah, alors l'Europe a des défauts, soit. Mais
c'est le FN de Schrödinger en fait. Il est, il est anti-européen, mais il est dans l'Europe. Quoi.
C'est, en fait, c'est formidable. C'est un grand paradoxe, ça, mais il semble qu'il y a déjà apparemment quelques années où le RN a renoncé à sortir de l'Europe. Quoi. Ils veulent sortir de l'euro, mais de l'Europe, apparemment, ils sont plutôt comme Orban, c'est-à-dire oui, à
c'est
rester dedans.
Au dernier présidentiel, Marine avait.
C'est très alambiqué, dit, ouais, voilà, c'est plus alambiqué. Et d'ailleurs, ça leur a permis, à mon avis, de.
Je pense que Brexit, ça a calmé tout le monde.
Quelques voix, ouais, il y a aussi ça, voilà. Ben oui, non, mais c'est ça exactement. Donc ils en sont revenus de ça. Bon, mais bon, ça n'empêche pas, par exemple, des partis comme celui d'Orban d'être au pouvoir et d'avoir des politiques liberticides.
Tonio.
Ouais, juste tout à l'heure, je parlais de temporalité. En fait, je voulais juste parler du contexte dans lequel ça arrive, c'est-à-dire qu'on organise un événement quand même mondial. Moi, en ce qui me concerne.
Plusieurs événements mondiaux. Un seul, ouais.
Un seul, mais l'autre, il est chez les copains.
Ouais, ouais. C'est vrai.
Il est pas chez nous. Évidemment, les JO. Ouais. Avec évidemment tout un dispositif fait par des gens qui ont bossé là-dessus pendant longtemps. On peut reparler de la polémique sur Aya Nakamura. Voilà, il y avait quand même pas mal. Enfin, le RN, Marine Le Pen avait dit que ça serait une honte pour la France, quoi. Voilà, ce genre de truc. Alors, Aya Nakamura, on aime ou on n'aime pas. Mais eux, clairement, on sait pourquoi ils l'aiment pas. Hein. C'est pas du tout pour ses textes, très engagé.
Ouais, moi, je m'en fous.
Je m'en fous. Bah non, en fait, quand des gens du RN ont des banderoles avec écrit "Rentre dans ton pays, t'es pas chez nous", enfin, Aya Nakamura, oui, voilà.
Non, il s'en fout pas. C'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il s'en fout du fait que ce soit Aya Nakamura qui chante.
Exactement. Excuse-moi, je l'avais pris vraiment premier degré.
T'inquiète.
Enfin bref,
il l'avait pris pour lui. J'ai vu.
Oui, voilà, je le prends très mal en tant que Breton.
Ah, ce bon vieux Bolloré.
Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, ouais, non, au niveau de la temporalité, voilà, donc t'as des gens qui ont fait tout un service de sécurité, qui ont bossé quand même des schémas, des machins, des trucs, et là, en deux semaines, on pourrait très bien avoir donc un gouvernement qui, juste avant les JO, dit, alors cet artiste-là, il dégage, ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu,
oui,
c'est les représentations de la France qui peut être vue vraiment à l'étranger, sans faire le lien avec les JO de 36 quand même, on n'en est pas là, mais voilà, ça peut être très inquiétant, puisque en fait, on pourrait, surtout au niveau sécurité, moi je pense au niveau des mecs qui ont des plans pour lutter contre le terrorisme, etc. On sait qu'il y aura un défilé sur la Seine, on sait que machin. Si on change les préfets au dernier moment, si on change tout d'un coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'augmenter ce risque d'attentat et de... Alors, faudrait parler à un spécialiste, moi je ne suis pas du tout calé dans ce domaine, mais je trouve ça un peu inquiétant de changer tous les administrateurs d'un projet au dernier moment et de prendre le risque qu'il change et peut-être alors, dans le mauvais sens.
Par exemple, en
fait. Et je trouve que là, la temporalité est très mal choisie, je trouve. Elle est peut-être très bien choisie pour sa stratégie, hein, monsieur Macron. Mais du point de vue de la stratégie, du risque et quand même de la joie que ça peut apporter, ces JO. Moi, ça me rend pas spécialement heureux, mais voilà, il y a des gens qui attendent ça depuis 4 ans, les athlètes notamment. Est-ce que les athlètes, s'ils gagnent, est-ce que l'équipe de France, si elle gagne, elle ira serrer la main de Jordan Bardella? Je ne crois pas. Aux États-Unis, ils n'allaient jamais serrer la main de Trump.
Non, mais au niveau temporalité, ça a déjà été posé explicitement ce genre de choses. Évidemment, si, par exemple, le Front National passe en cette date du... Je ne sais plus, j'ai oublié... Le 7 juillet. Ils l'ont dit explicitement. Voilà, en fait, il y a déjà aussi quelques mois avant de se mettre en place, etc. Ça ne se met pas en place comme ça. Déjà qu'il y a des événements qui rentrent en compte. L'Euro de football. Ou est-ce qu'aussi... Ou est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont demandés de travailler sur des événements spécifiques comme celui-ci? Évidemment, les JO qui sont des événements mondiaux, etc. Ils l'ont déjà dit, le RN, que s'ils sont mis au pouvoir, j'ai envie de dire, en fait, il y aurait un temps de latence, de temporisation, hein, pour ce genre de choses. Ça a été dit aujourd'hui parce que j'ai passé ma journée à regarder la téloche, Internet.
Un très beau travail de
fond. J'ai les yeux qui piquent et les oreilles qui...
Mais il me semble...
dégueulasse. Johan.
Pardon,
vas-y.
Il me semblait pourtant que, à la soir même du deuxième tour, le Premier ministre, ce serait acté le lendemain, par exemple, maximum. Quoi.
Oui, ça serait acté, mais en fait, il ne serait pas forcément mis tout de suite dans son bureau pour dire ça.
Le président de la fédération de tennis et dire tel joueur il joue pas, ça il peut très bien le faire.
Moi c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui.
Évidemment que le FN va pas dire voilà. Juste je finis sur un dernier truc. Je suis Jean-Michel négatif, désolé ce soir. Mais on peut parler également aussi de la réaction des Français. On est un peuple quand même qui va assez vite dans la rue. Voilà. Si le FN passe sur une contestation, si c'est pas le FN, est-ce que les militants FN n'iraient pas dans la rue pour défoncer les JO? Ce risque-là aussi, il est pris. C'est aussi ce risque-là qu'il faut prendre en compte quand on organise des élections législatives juste avant des JO, où on va être scruté.
C'est assez unique à mon avis.
Voilà. Où il y aura des barrières de sécurité de partout, où il y aura des CRS, des reconnaissances visuelles, des faciales, machin et tout. C'est aussi un risque qui... Enfin, moi, je sais pas, j'évalue les risques. On m'a toujours appris ça, en fait, évaluer risques, bénéfices. Les bénéfices, moi, je les vois pas. Je vois beaucoup de risques. Les bénéfices, à mon avis, il y a que M. Macron qui les voit pour l'instant.
Attends, on va essayer d'avancer un petit peu quand même dessus.
Non, j'ai encore... Je suis sagittaire.
Ouais, et la gauche dans tout ça, vous, comment vous voyez ça? Enfin, aujourd'hui, par exemple, il y a François Ruffin qui a proposé le Front Populaire, donc coalition divers gauche et écologie. Ouais.
C'est plutôt bien vu, ça incite à l'union des gauches. Ruffin est quelqu'un d'assez fédérateur qui ouais. En plus est écouté pour le coup parmi les filles, qui est écouté
même à droite,
écouté, voilà, il est écouté au PS, il est écouté par les communistes, il est écouté même par des centristes, voire par des gens de droite également, en tout cas, bon, pas beaucoup, mais sur quelques sujets, dans tous les cas, je veux dire qu'il a un esprit très fédérateur. Ça pourrait être une belle solution pour
d'accord.
La gauche, en tout cas.
Ok. Tiens, je voulais juste revenir sur les petits trucs, justement. Par exemple, si le Rassemblement National, il pourrait mettre évidemment en œuvre certaines lois, ce qui est normal. Est-ce qu'ils sont pour la retraite à 60 ans ou pas, les gars?
Ouais, déjà, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, alors on ne sait pas très bien finalement où ils sont. Quoi. Ils se disent on ne sait pas très
c'est
bien.
C'est pas pour rien qu'on dit extrême droite, c'est-à-dire que les valeurs.
Ils sont extra-libéraux, extra. Voilà. Enfin, voilà, c'est. Clairement, ils sont contre les pauvres. Hein. Mais Mélanie, en Italie, elle a légalisé
pourquoi,
le.
Pourquoi
fait
ils seraient contre les pauvres? Je veux dire, c'est les premiers. Le
ils votent contre l'augmentation du SMIC, par exemple.
C'est les premiers à dire qu'ils sont pour le peuple.
Oui, mais ils votent contre l'augmentation du SMIC.
Oui, mais ça, c'est du populisme.
En 2022, le Rassemblement National a voté contre l'augmentation.
Tous les dirigeants disent qu'ils sont pour le peuple. On aurait rarement. Le truc, c'est que les gens, en général, qui votent FN, ils votent contre le projet des autres. Ils votent pas pour un projet commun. C'est-à-dire qu'ils votent contre, ou alors pour un fantasme d'une France passée qu'ils n'ont même pas connue parfois.
Et discours recyclé depuis 50 ans.
Et du coup, en fait, forcément, ils peuvent pas tenir leurs promesses, mais ils s'en foutent puisque, comme le bon gars qui tient le PMU, il va te le dire, il va te dire, mais ils ont jamais été au pouvoir.
Alors évidemment, si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que la grosse réforme là, qui a été très très mal acceptée.
Laquelle
au niveau social, je vais te le dire, il faut attendre. Non, c'est évidemment c'était la retraite qu'on repoussait et évidemment en fait le RN s'était justement positionné sur cette retraite et en fait ils avaient dit nous on était pour la retraite à 60 ans. Alors moi j'avais un peu regardé évidemment, bien mais sûr. On le trouve très vite et en fait la retraite à 60 ans en fait pour eux c'est oui et non en même temps en fait.
Comme pour le nucléaire.
Pour beaucoup de choses.
Parce qu'en fait seules les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans, en fait, c'est seules les personnes ayant commencé avant 20 ans, pendant 40 annuités, pouvaient donc partir à la retraite à 60 ans. Mais une personne ayant commencé à travailler qu'à 25 ans, c'est-à-dire comme la plupart des gens de maintenant, ou plus, hein, évidemment, ne pourrait partir à la retraite qu'avant 67 ans. Donc en fait, c'est kiff-kiff. Hein. Ouais, c'est 67 ans. Donc en fait, on est un peu kiff-kiff. Donc je voulais revenir en fait sur ces petits trucs, en fait, où est-ce que les gens pensent des fois que le RN, ça va être mieux ou pas. Moi, je pense que ça serait pas mieux quand je regarde les faits. Antoine ?
Alors, si je peux me permettre ce petit retour historique, Montesquieu avait vraiment mis en place ce délire de séparer les trois pouvoirs, hein, législatif, exécutif et judiciaire. Il s'avère que des gens comme Laurent Wauquiez, qui peut paraître pour un beau gosse de droite, ainsi que Éric Ciotti, de droite, mais également évidemment Bardella ou Zemmour, y a plus de mots assez extrêmes pour l'extrême droite à ce niveau-là, eux, ils veulent arrêter le Conseil constitutionnel français. C'est-à-dire que ça sera un État fasciste. Et fasciste du nom, pas en mode forcément le pas de loi et tout ce que toutes les horreurs dont les commémorations d'ailleurs ont eu lieu hier. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs partis politiques qui se présentent et j'ai bien peur que les Français n'aient pas vraiment compris qu'ils veulent instaurer un État fasciste en fait. Et voilà, ça passe crème. Après, moi, j'aurais été curieux d'entendre un journaliste poser la question lors de différents débats, lors des européennes. Est-ce que vous, qui vous présentez en tant que député européen. Vous connaissez l'émission et les rôles d'un député européen, on vous écoute. Voilà, ça j'aurais aimé.
Sachant que Bardella a déposé que 21 amendements en 5 ans.
Je me suis farci les 38 vidéos de.
T'as fait ça.
Il y a eu le parti des abeilles, il y a franchement des trucs.
Bravo à toi.
Enfin voilà, excusez-moi, je laisse la parole à mes chers confrères.
Non, mais voilà, c'était un peu pour.
Effectivement, s'il n'y a plus de conseil constitutionnel, c'est une véritable catastrophe pour la France.
C'est pas grave, c'est du fascisme. Mais ça passe plus rapidement, c'est plus sympa. On est dans l'instantané maintenant.
C'est la loi du fait divers, quoi. C'est la loi de. Voilà, le fait divers étant géré par.
C'est complètement incroyable qu'on puisse proposer.
Parce que les gens, ils votent pour des trucs chocs, quoi. C'est-à-dire que Zemmour, qui aujourd'hui se donne comme étant représentant du peuple, et puis en fait, quand t'avais des manifestations qui commençaient un peu à partir en sucette, mais c'est le retour de la lutte des classes. C'est le retour de la lutte des classes. Et en fait, il n'y a pas conscience qu'il y a effectivement. Ou en tout cas, il aime bien la France bien structurée. À la verticale. C'est même pas caché, quoi.
Mais il mérite même pas qu'on parle de
lui. Mais vu qu'il
ça
est.
Ça fait plus de 30 secondes, je crois que ça.
Mais il est pour le peuple parce qu'il est raciste. Et du coup, en fait, faut un peu. Je pense qu'il faut.
On n'a jamais vu autant de paradoxes, quand même.
Tout le débat politique, en fait, c'est vraiment structuré autour d'une seule idée, qui est l'idée de la France démographiquement est en train de changer. Et maintenant, il y a tout qui tourne autour de ça. Ce qui fait qu'en fait, tous les enjeux socio-économiques sont complètement passés à la trappe.
L'économie, ça n'a pas été mis en place. Les plans de rigueur, les plans d'austérité, l'écologie, le réchauffement climatique, rien n'a été évoqué. On n'a parlé que d'immigration. Pendant tous les débats.
Voilà, ouais. Tiens, noyé, les débats de fond.
Comme si un député européen avait un poids sur l'immigration en Bretagne. Quoi.
Pas de débat de fond.
Pour finir aussi sur un truc, bon, c'est un peu léger, mais vous allez comprendre pourquoi. N'Golo Kanté, Mbappé en équipe de France, est-ce qu'ils pourront encore y être? Pourquoi je pose cette question? Parce que dans certains pays, justement, où est-ce que l'extrême droite était passée, ils ont posé la question à leur peuple pour savoir en fait s'ils veulent des personnes de couleur au sein de leur équipe. Évidemment, au sein de l'équipe de France, il y a des personnes de couleur, ce qui est normal, parce qu'on est sur une diversité qui nous honore. Mais justement, N'Golo Kanté, Mbappé en équipe de France, pour ou contre? Bien au contraire. Alors,
moi, j'ai plein de choses à dire. Alors,
Charlie,
allez-y les autres.
Mais ça, en fait, ça, même si l'idée a été posée, c'est déjà complètement fou.
Ouais,
parce qu'en fait, les gens, ils sont déjà ici. De toute façon, on va jamais renvoyer personne chez soi. Parce qu'ils sont noirs ou...
Ah bah si, au Rwanda, on revoit... comme en Angleterre,
en Angleterre, on revoit les... Si t'es noir, c'est le Rwanda. C'est Noirland.
Ça marche peut-être sur une première génération, sauf qu'après, les gens, ils se mélangent. Après, comment tu détermines qui est noir et qui est blanc?
Moi, si je suis petit-fils d'immigré, fils de naturalisé,
comme
de problème. En fait, tu vas finir comme les ségrégationnistes américains qui disent c'est la one drop rule. Du coup, c'est genre, si un mec il a une goutte de sang noir, il est noir. Et en fait, c'est trop con.
Il y a aussi le détail, c'est des partis qui sont anti-noirs. Et aussi, ils ont un délire, c'est anti-gaucho. On retrouve le judéo-bolchevique des années 30 avec le socio islamo-gauchiste, c'est ça, voire judéo-islamo-gauchiste, je sais pas trop quoi, enfin ça va très très loin et on retombe un peu là-dedans. Et comment tu sais si quelqu'un est de gauche à 30% et de droite à 40%? C'est pareil, parce que moi je suis pas, je suis plutôt de gauche, mais je suis pas stalinien, tu vois.
Tu fais un test ADN, le génisme, tu fais un test ADN.
J'adorerais avoir ça dans Black Mirror, je pense. Mais pour revenir sur N'Golo Kanté et lui, je pense que tu faisais une petite référence en Italie où ils ont fait un référendum national pour savoir Super Mario, Mario Balotelli pouvait jouer. Parce que Mario Balotelli, tu t'entends son nom, son prénom, il fait pas du tout italien. Et il est noir. Oh, ouais. Et donc, voilà, c'était un des meilleurs joueurs du monde. Et donc, ils ont quand même fait un référendum pour savoir s'ils pouvaient jouer. Voilà. En Autriche, ils en ont fait également.
Ils l'ont fait quand, ce truc-là
il y a une dizaine d'années.
Ouais, quand ils jouent encore. Ce que j'allais dire, ils l'ont fait maintenant.
C'était même pas sous le gouvernement Meloni, du coup.
Pas, mais non, mais bon, il y a toujours eu des franges, notamment dans le football.
Puis l'Italie, c'est assez connu.
Berlusconi, alors.
Pas qu'en Italie, Berlusconi était très proche de l'extrême droite, hein, on va pas se le cacher.
À travers ça, j'ai pas vu cette info.
Pas vraiment, étonnamment.
Et donc, non, N'Golo Kanté, il y sera, ça sera quand même la faire valoir, avoir des personnes de couleur très riches, ça leur a jamais posé de problème de serrer la main de Qataris qui peuvent tuer des gens en claquant des doigts. Ça, c'est pas un souci, même pour Macron, hein, je veux dire.
L'économie mondiale, ça, c'est un autre sujet que nous.
Que je vais aborder
tout de suite.
Voilà, c'est ça, tout de suite, c'est reparti pour 9h,
3h30 d'émission, merci de.
On peut
votre
pas, mais
fidélité.
Alors, ça aussi, ça, c'était un sujet que j'aurais bien voulu aborder. En fait, c'est l'économie globale mondiale par rapport au racisme exacerbé.
Ah oui.
Et on peut même le mettre en résonance exactement avec l'écologie.
Et
en plus, c'était l'une de mes dernières questions. Et je sais que tu lis en moi comme dans un livre ouvert, Antoine. Mais c'est vrai, l'écologie dans tout ça, parce que le rapport du GIEC n'a pas encore fait bouger les lignes.
Le cinquième rapport.
Et en fait, là, on en parle plus et moi, ça me rend fou.
Non, parce qu'il fait frais.
Ça me
en
rend
ce moment.
Fou de non, ce
que j'ai crois pas. Parle plus,
c'est complètement con. Mais les gens confondent climat et météo. Et donc voilà, mais bon, c'est mes compatriotes, hein, c'est pas de leur faute. Mais voilà, hein, plus tu tapes sur l'éducation, bah, moins les gens sont instruits, moins ils sont instruits, plus ils votent FN. Voilà, c'est ma conclusion. Voilà, j'en ai marre, je me foutre en l'air. Allez.
Tiens,
bah,
juste,
non, pitié, non, on fait pas ça.
Les gars, justement, on arrive un peu à la conclusion de l'émission. On va écouter ton mix que tu nous as fait, Charlie. Tiens, toi, tu nous as fait un mix gaucho style.
Oui. Ouais, c'est assez tranquille. J'ai pas mis de la gauche française. Je voulais rester sur un côté plus léger.
Ouais, hip hop américain, tout ça.
C'est
ouais.
Ça, un peu de punk anglais.
Ça fait plaisir.
Ah, super.
Ouais. Ouais. Fuck you. Non, c'est pas celle-ci. Non, d'accord.
Mais ouais, du coup, on écoutera Rage Against the Machine, bien sûr. Évidemment. Yes. Enemy, bien sûr. G. Scott Heron, poète et
The Bottle,
grand défenseur des droits des Noirs américains dans les années 70.
Génial.
Et aussi Idols, un groupe que j'aime bien.
Oui, trop beau.
Qui est très cool.
C'est bon, c'est beau, Idols.
Ah, bah avec plaisir. Bon. J'ai hâte, ça donne
merci, ça a l'air génial.
Peut-être que si les gens s'insurgent dans la rue, s'il y a des mouvements sociaux, peut-être qu'on refera une émission spéciale cette année par rapport à ce qui se passe. Hein.
Bah, on espère pas. On espère que ça ira dans le bon sens et que personne ne s'insurgera.
Si on est bienveillant les uns vers les autres.
Puisque tout sera bien passé, voilà.
Ouais, pour finir sur notre positive, moi je pense que tout ira bien. notamment au niveau écologique et politique. Voilà,
si vous votez pour moi, vous serez plus riche, bien évidemment. Le problème, c'est les aides sociales, clairement.
Yes. Évidemment, Radio PFM, la Cour des Miracles, pardon, c'est sur Radio PFM, c'est aussi sur le www.radiopfm.com, c'est sur Facebook, c'est sur. Tu peux le retrouver un peu partout, à Leclerc, à Auchan, à Carrefour, sur Amazon, sur Chine, sur. Tous les ultra fashion, voilà. Non, on est là, c'est la Cour des Miracles. Merci à toi Tonio d'être passé, merci à toi
Antoine,
d'être passé,
toi,
merci
Antoine,
Charlie.
Antoine vient de dire un truc intéressant pour une prochaine émission, on pourrait faire une émission, mais qui écoute Jordan? On propose tous un mix de ce qu'on pense qu'écoute Jordan Bardella quand il est chez lui seul dans sa baignoire.
Oh là là, ça va être atroce.
Ses propres paix à moi.
Regarde des chants tyroliens intégristes. Pardon, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour les tyroliens.
Allez, bisous à vous.
Allez,
salut.
Gros bisous, prenez soin de vous. Salut.
Yes, I. Yes.
Be able to stay home, brother.
PFM.
You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
The revolution
will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Come on, let me down.
funky drummer. Music hitting your heart, cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Knowing what I'm knowing while the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. As the rhythm's designed to bounce with calcium, that's the rhyme designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness. Don't rest the show.
You got to go for what you know.
To make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. 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 We got to fight the powers that be.
BFM, BEM, BEM, BEM.
We'll be right back.
سيداتي وسادتي كتصنتوا راديو بي اف ام 99.90.
Des miracles, la cour des miracles,
la cour des miracles.
Sanglant des deuils.
agir, c'est faire.